Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludivine et vous écoutez le podcast Human Coders. C'est Julien Crétel qui se retrouve cette semaine à notre micro pour nous parler de sécurité. Alors la sécurité c'est un sujet assez vaste et dans cet épisode on a échangé sur un terme qui m'était jusque-là inconnu mais que peut-être certains ou certaines connaissent, la divulgation responsable. Alors à quoi ça sert de mettre en place une politique de divulgation responsable? Pourquoi est-il important d'en avoir une en tant qu'entreprise? Quel est le lien entre la divulgation responsable et les hackers? Oui, parce qu'avec Julien on a aussi parlé des hackers et des programmes de bug bounty. Alors ça fait beaucoup de mots-clés, mais en bref, si vous voulez en savoir plus sur les failles de sécurité, comment en trouver et comment s'en prémunir, restez avec nous. Très bonne écoute. Bonjour Julien.
Salut Ludivine.
Alors, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Je suis Julien Crétel, et ça fait environ un an que je bosse en tant que développeur indépendant. J'ai plusieurs activités, donc je fais du développement freelance. Je fais des formations sur le langage Go. Et puis, mon troisième type d'activité, c'est de la sécurité informatique. Donc, je fais des audits de sécurité pour des boîtes.
On s'est contacté parce qu'on voulait parler de sécurité. Et justement, par rapport à la sécurité, en fait, qu'est-ce que tu fais exactement sur ce domaine? Parce que c'est assez large.
Oui, c'est assez large. Ça dépend. J'ai des clients qui me contactent et qui me disent on a du code et on nous a fait des remontées. On sait qu'il y a des problèmes de sécurité avec ce code. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil et nous dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il vaut mieux tout réécrire? Est-ce que ça peut être corrigé? En combien de temps? Est-ce que tu veux le corriger toi-même, etc.? Et puis autrement, j'ai des boîtes qui me contactent et qui me disent « On sait que tu es intéressé par les sécurités, que tu aimes trouver des bugs. Est-ce que tu peux essayer de t'introduire dans notre système ? Et si c'est le cas, si tu trouves des failles, remonte-les nous et on te paye tant en fonction d'un certain barème. »
Tu es en quelque sorte un chasseur de failles de sécurité, c'est ça ?
C'est ça. Pour s'assurer que leurs systèmes sont bien sécurisés, les boîtes ont différentes stratégies. Certaines vont juste avoir confiance en leurs développeurs et en leur personnel et vont pas se préoccuper de la sécurité au-delà de ça. Certaines vont contacter des boîtes qui se spécialisent dans la sécurité et dire tous les trimestres, on veut que vous fassiez des tests d'intrusion et puis rapportez-nous tous les problèmes que vous trouvez. Au-delà de ça, les boîtes peuvent mettre en avant ce qu'on appelle une politique de divulgation responsable. Donc c'est un nom un peu compliqué de prime abord, mais en fait, tout ce que ça veut dire, c'est juste une procédure qui s'adresse à n'importe qui, en fait, et qui détaille comment remonter une faille de sécurité. Donc, par exemple, Twitter va dire « on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on peut avoir des problèmes de sécurité. Si vous tombez sur quelque chose d'intéressant, voilà comment entrer en contact avec nous, nous donner les détails sur la nature de la faille, vos conseils, vos suggestions pour y remédier. Et puis voilà, on s'engage à revenir vers vous sous tant de jours et puis peut-être à vous donner une récompense. » Quand on commence à offrir des récompenses pour des remontées de failles comme ça, on passe sur ce qu'on appelle du bug bounty hunting.
Et si je reviens sur ce que tu as appelé la politique de divulgation responsable, donc si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont peut-être avoir une page, c'est ça, une page sur laquelle ils vont détailler un petit peu le procédé en fait à suivre dans le cas où quelqu'un trouve une faille, c'est ça ?
Exactement. Jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment une pratique très courante, on va dire. Les boîtes avaient tendance à dire non, on est invulnérable, on n'a pas de faille de sécurité. Donc, mais de plus en plus, les boîtes se rendent compte qu'elles ont intérêt à mettre leur arrogance de côté, on va dire, demander au public de remonter des problèmes s'il en trouve. Et donc cette politique de divulgation responsable, effectivement, ça prend la forme d'une page sur leur site qui explique, on a telle adresse email par exemple pour remonter une faille, voilà comment nous contacter, etc.
Et je me demandais en fait, parce que bon, honnêtement, quand tu m'as contacté pour me dire que tu aimerais parler de ce sujet de divulgation responsable, je suis allée sur internet pour taper le mot dans Google et comprendre ce que c'était, parce que j'en avais jamais entendu parler. Tu dis que c'est peu développé. Est-ce que tu sais à quel point c'est développé aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus dans certains pays que d'autres? Comment se situe la France aujourd'hui par rapport à la divulgation responsable, par exemple?
De mon point de vue, c'est le pays dans lequel c'est le plus développé, c'est aux États-Unis. Les boîtes ont plus tendance à avoir une politique de divulgation responsable aux États-Unis. En France, ça commence, mais les boîtes restent un peu frileuses les boîtes ont encore peur d'inviter les gens à les attaquer, entre guillemets. En fait, il y a un conflit entre présenter une façade d'invulnérabilité à ses clients potentiels et en même temps être réaliste, reconnaître qu'on n'est pas invulnérable, en fait. Ce qui est intéressant, en fait, de mon point de vue, c'est que non seulement les boîtes lambda s'y mettent, mais les boîtes de sécurité elles-mêmes reconnaissent, on a beau bosser dans la sécurité, on fait des erreurs également. Donc, si vous trouvez des problèmes sur notre site internet ou sur nos serveurs, etc., voilà comment nous contacter. Donc ça, c'est intéressant, je trouve.
Et du coup, ça me fait penser, alors, est-ce qu'il y a des communautés derrière cette notion de divulgation responsable? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des communautés alors de développeurs ou hackers, je ne sais pas comment les appeler, qui se réunissent et qui ont pour partager peut-être des bonnes pratiques ou pour, je ne sais pas, s'entraider?
Ah oui, il y a une communauté très forte, sur Twitter notamment, sur IRC. Enfin bref, les gens écrivent des blogs sur « voilà, j'ai trouvé telle faille, j'étais coincé à tel endroit, puis ensuite ça s'est débloqué, j'ai trouvé ça, etc. » Les gens partagent leurs astuces, leurs outils. Donc il y a vraiment une communauté très forte sur Internet. Après, il y a des événements physiques un peu partout dans le monde. Il y a des conférences qui sont axées principalement sur la sécurité ou sur le hacking. Il y a notamment Hack in Paris. Voilà, il y a des événements, oui. Il y a une forte communauté.
Alors, on les appelle comment, ces gens-là? Est-ce que c'était pas les hackers? Attends, je sais plus. Les gentils hackers.
Quelque chose comme ça, oui. Ils portent des noms différents. Il y a une variété de noms qui circulent. Mais on parle de white hats, donc des chapeaux blancs, des gens qui veulent faire le bien. Il y a aussi le terme hacker éthique, donc des gens qui vous attaquent, mais qui gardent un sens éthique et qui vont faire des remontées et pas exploiter les failles.
Oui, parce que le but des hackers éthiques, c'est effectivement d'attaquer, mais dans le but d'améliorer, en fait.
Exactement. L'idée, c'est de remonter à la boîte qui gère le système, de manière à ce que les utilisateurs du système et les utilisatrices du système soient plus sécurisés. C'est toujours dans cette démarche-là.
Et alors, tout à l'heure, tu m'as donné un mot-clé, je crois que c'était quelque chose avec bounty ou bounty.
Voilà, donc bug bounty, donc c'est prime au bug de sécurité. Et en fait, c'est cette récompense qu'un chercheur en sécurité qui trouve une faille et la remonte à la boîte va toucher en fonction d'un barème qui est établi en amont.
Sachant que tu vas avoir des boîtes qui vont mettre un système de récompense dans le cas où on trouve des failles, mais ce n'est pas systématique.
Tout à fait. Donc une boîte peut avoir une politique de divulgation responsable, peut dire « si vous trouvez un problème, voilà comment nous contacter, etc. etc. » Mais rien ne l'engage à donner une récompense. En fait, le système de prime au bug de sécurité, c'est l'étape d'après où on dit « non seulement on veut que vous nous remontiez des failles, mais on s'engage à vous donner tant en fonction de la gravité, de la sévérité de la faille remontée.
Et est-ce que tu as des exemples là à me donner? Je crois que tu t'amuses à chercher quand même beaucoup de failles ton temps perso, parce que des fois je vois des petits tweets. Est-ce que tu aurais des failles en fait récentes que tu aurais trouvées à nous remonter?
C'est relativement récemment que je m'y suis mis, donc je suis un peu un petit joueur comparé au reste de la communauté, mais c'est intéressant parce qu'on apprend tous les jours. Mais je participe notamment à des programmes privés. Dans ces cas-là, dans ce genre de programme, on est invité à hacker un système. C'est pas ouvert au monde entier, c'est seulement une liste très restreinte de gens qui sont invités à hacker un système. Et donc récemment, oui, j'ai trouvé un truc assez intéressant qui s'appelle un server-side request forgery. En gros, on force un serveur à lancer une requête vers un autre serveur. Et ce que ça permet de faire, ça dépend en fonction du système, mais dans ce cas précis, le serveur que j'ai attaqué était censé envoyer une requête à un serveur bien précis, sauf que j'ai réussi à détourner le truc et à le faire envoyer une requête vers un serveur que moi je contrôlais. Du coup, j'ai vu, en inspectant les entêtes de requêtes, j'ai vu qu'il y avait des données sensibles. Il y avait une clé API que j'ai récupérée qui était censée appeler un service tiers. Et du coup, je pouvais utiliser leur clé API et utiliser ce service tiers pour mes fins personnelles.
D'accord. Et est-ce que parfois, quand tu trouves des failles et que tu contactes des entreprises, est-ce que en face, l'entreprise est toujours contente, te dit éventuellement merci, ou est-ce qu'au contraire, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'en moquent, peut-être que... Enfin, quelle est la réaction en fait, des gens quand tu trouves une faille et que tu les contactes?
C'est une très bonne question, Ludivine. La réaction la plus courante, c'est pas de réponse. Pas de réponse. Et a priori, si je me base sur les tests que j'effectue en aval, la faille n'est jamais corrigée.
D'accord.
C'est surtout les boîtes qui n'ont aucune politique de divulgation responsable.
Peut-être que ce n'est pas le bon service. Enfin, je ne sais pas si, du coup, comme elles n'ont pas de divulgation responsable mis en place, ce n'est peut-être pas les bonnes personnes qui reçoivent le message et peut-être qu'elles ne prennent pas les choses au sérieux, je ne sais pas, ou qu'elles ne transmettent pas l'information.
Exactement. On va tomber sur une adresse email lambda, genre contact@blablabla.com. Et là, on sait que c'est un trou noir et qu'on n'aura jamais de réponse. Une autre tactique, c'est essayer de contacter le support technique. Mais en gros, les gens du support technique ont un script et ça tombe pas dans leur script. Ils savent pas comment répondre, en fait. D'où l'intérêt, en fait, de mettre sur pied, si vous êtes une boîte qui a une présence sur Internet, une politique de divulgation responsable pour justement guider les gens qui ont une bonne intention et veulent vous remonter des failles. Là, ça les guide et ça leur explique exactement comment entrer en contact avec vous et contacter les bonnes personnes au sein de la boîte qui seront à même de résoudre le problème.
On va soumettre l'idée à Camille et Mathieu pour Human Colors.
Pourquoi pas? Il y a différentes approches à la façon de mettre en avant une politique de divulgation responsable. Il existe une proposition de standard pour permettre de trouver les politiques de divulgation responsable quand elles existent plus facilement. Ce standard s'appelle security.txt.
D'accord.
Et en gros, donc, tu peux trouver comment ça marche sur Internet, mais l'idée, c'est juste de mettre la politique de divulgation responsable sous un chemin bien précis du domaine racine. Comme ça, les hackers savent exactement où chercher si ils ou elles veulent remonter une faille.
D'accord. Et est-ce que tu as un exemple à nous donner? Là, tu parlais de Twitter au tout début. Est-ce que ce serait quoi, du coup, l'URL, là, si tu veux aller sur leur page de divulgation responsable?
Si tu vas sur twitter.com/...
Ouais.
Donc, .well-6known.
Ouais, et ensuite?
Et ensuite, /... et security.txt. Alors ça ne marche pas. Essaye Facebook. Mais justement, toutes les boîtes ne l'ont pas adopté, mais plus tu... voilà.
On voit là l'intérêt en direct d'avoir réellement des standards. Ah oui, alors effectivement, Facebook, ça marche. Enfin, j'ai 4 lignes, hein, mais au moins, il y a une marche à suivre.
Voilà. En fait, ils te mettent des URL et tu dis pour en savoir plus, aller à tel endroit.
Tiens, je vais essayer Google au cas où.
Ouais.
Ah oui, Google, on fait aussi.
Voilà, c'est magique.
Ok, ouais, c'est pas mal. Et on voit à la fin, si vous allez sur donc google.com/.well-known/security.txt, vous verrez à la fin, il y a marqué flag bounty con. Il y a une clé à l'intérieur, donc j'imagine que bounty, donc il y a des récompenses en jeu potentiellement.
Oui, j'avoue que je ne sais pas à quoi correspond cette ligne.
À voir, à tester. On invite les gens à le tester, à nous dire s'ils ont réussi à avoir des récompenses. Mais... Donc là, on vient de voir que c'est vraiment intéressant du coup, d'avoir une standardisation de la politique de divulgation responsable. En tout cas, ça facilite quand même grandement le travail des hackers, je vais les appeler les hackers éthiques, pour la remontée de failles, de bugs. Tout à l'heure, tu donnais un exemple, tu disais que tu avais été invité pour participer à une séance de hacking, je peux dire ça comme ça?
Oui.
Si je comprends bien, tu as des espèces de communautés un petit peu privées, fermées, entre hackers éthiques, pour aller attaquer, challenger en fait des systèmes informatiques. Et puis, il y a la possibilité de le faire tout seul dans son coin.
C'est ça. Alors, soit la boîte fait ça toute seule, soit la boîte dit, voilà, contactez-nous directement et... vous nous remontez des failles et on vous paye, etc. Ou alors, elle peut faire appel à une plateforme extérieure qui est spécialisée dans le bug bounty.
D'accord.
Donc, il y en a plusieurs. Les deux plus connus, ce serait BugCrowd et HackerOne. Donc ça, c'est les plus connus à l'international. Il y en a une qui se spécialise plus dans les bug bounty privés, qui s'appelle Yogosha, qui est française, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc pour expliquer très vite, en fait les boîtes prennent contact avec ces services et disent bah on veut mettre sur pied un programme de bug bounty. La plateforme de bug bounty invite ces chercheurs à trouver des failles sur les boîtes concernées et elle s'occupe de trier les vulnérabilités ou les rapports de failles qui rentrent. Et ça permet en fait d'évacuer pas mal de rapports de pas forcément très bonne qualité. Donc ça permet de décharger la boîte d'un certain fardeau lié au bug bounty.
Et donc en gros, c'est un peu comme un événement. Enfin, je veux dire, est-ce que tu définis une plage, par exemple une semaine, pendant une semaine, les personnes sont invitées à s'attaquer à cette boîte en particulier, c'est ça, et ils remontent leur rapport.
Ça prend différentes formes. Un programme de bug bounty, ça peut être limité dans le temps, ça peut être, voilà, vous avez deux semaines, attaquez-nous. À l'inverse, ça peut être en continu. Et c'est ça qui est intéressant parce que traditionnellement, les boîtes, pour vérifier qu'elles étaient sécurisées, elles appelaient une boîte qui était spécialisée dans les tests d'intrusion, et puis tous les trimestres, elles bloquaient 2-3 jours. Il y avait une équipe de quelques personnes qui se focalisaient et qui essayaient de trouver des failles. Mais l'intérêt, c'est vraiment de se poser la question, est-on sécurisé de manière continue plutôt que de manière ponctuelle? Un autre aspect qui peut être amené à changer, c'est le périmètre. En fait, les boîtes peuvent dire, on commence avec notre programme de bug bounty. Donc pour l'instant, vous avez le droit d'attaquer seulement ce domaine, par exemple. Et puis au fur et à mesure, quand elles sont plus rodées, elles vont dire, on rajoute ce domaine, vous pouvez attaquer ça. Donc ça varie au fur et à mesure.
Et du coup, est-ce que tu as des conseils s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer?
La première chose que je dirais, c'est vous n'avez pas besoin d'être développeur ou développeuse pour vous lancer. Du moment que vous êtes curieux ou curieuse, que vous aimez chercher, vous pouvez avoir du succès. Ensuite, il y a beaucoup de ressources sur Internet ou sous forme de livres pour apprendre comment chercher des failles de sécurité et comment les exploiter, etc. Commencez petit, en fait. On peut chercher des failles qui n'ont pas forcément un impact très important, mais qui permettent de comprendre certaines choses. Et puis ensuite, on apprend de plus en plus, etc. Donc.
Oui, je te demande parce que honnêtement, ça me semble être un sujet totalement abstrait, en fait. J'avoue que quand j'étais développeuse, j'ai jamais été vraiment dans ces questions de sécurité. Je m'occupais purement de développement. Je sais même pas si on avait des équipes dédiées à la sécurité. En tout cas, c'était vraiment un domaine qui était très loin de mes préoccupations, honnêtement. Et là, quand je t'entends parler, je trouve ça assez génial. Mais je saurais absolument pas comment commencer. Et je me dirais, mais mince, mais est-ce qu'il ne faut pas des compétences particulières? Est-ce qu'il ne faut pas que je sache, je ne sais pas, bidouiller avec telle ou telle chose? Enfin, je serais totalement perdue, en fait. C'est vraiment abstrait. Peut-être qu'on mettra aussi des liens de tutoriels ou de ressources. Mais toi, en fait, comment t'as commencé?
Je vais répondre à ta question d'où ça vient cet intérêt pour la sécurité. En fait, dans la boîte dans laquelle j'étais avant de passer en indépendant, j'étais auditeur interne de ISO 27001 qui a trait à la sécurité. Et en gros, tu es un peu le gardien du temple, ou je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en gros, tu te mets dans la peau d'un adversaire et tu essaies de trouver ce qui ne va pas en termes de sécurité au sein de la boîte. Et donc ça a éveillé mon intérêt pour la sécurité informatique. Et puis quand je suis passé en indépendant, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de me former sur ce sujet. Donc ça, c'est pour répondre à comment je me suis lancé là-dedans. Et ensuite, au niveau des ressources sur le web, il y a OWASP, une organisation qui se met à disposition des ressources d'apprentissage, etc., sur tout ce qui touche à la sécurité informatique. Ils ont des super ressources. Donc pour commencer, lire leur page, c'est intéressant. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce dont tu parlais, c'est la dichotomie apparente qui existe entre être développeur ou développeuse et puis faire de la sécurité. En fait, c'est ça qui est super intéressant de mon point de vue, c'est que faire de la sécurité, du bug bounty hunting à côté, ça fait de moi, je pense, un meilleur développeur, parce que je pense que je vais avoir moins tendance à introduire des failles moi-même dans le code que j'écris. C'est un peu schizophrène, mais ça te permet de te mettre dans la peau, quand tu écris du code, de se dire, mais attends, je suis en train de prendre l'input d'une utilisatrice, mais est-ce que je lui fais vraiment confiance? Est-ce que je ne devrais pas assainir l'input avant l'afficher sur la page, etc., etc. Donc ça te permet vraiment de te mettre dans un état d'esprit où tout le monde est contre toi, et il faut vraiment faire attention à ce que tu écris, en fait. Donc, avoir une conscience et une attitude de sécurité, ça te permet d'écrire du code plus sécur dès le départ.
Donc on ne peut qu'encourager les développeurs à s'y intéresser finalement. Bon, t'as parlé des récompenses. Alors c'est peut-être pas forcément le but premier des hackers éthiques hein, d'avoir une récompense, mais bon, c'est toujours sympa. C'est de quel ordre ? Est-ce que c'est forcément de l'argent ? Est-ce que c'est pas des fois des objets ? Il me semble que t'avais gagné un téléphone à un moment pour avoir trouvé un bug.
Oui, donc c'est pareil, ça varie énormément d'une boîte à l'autre. Un grand groupe télécom français qui m'avait récompensé avec un smartphone dernier cri, donc ça c'était cool. Quand c'est de l'argent, en fait, ça peut être en euros ou en dollars, ou ça peut être en crypto-monnaie. Et au niveau des montants, ça varie énormément d'une boîte à l'autre, parce que chaque boîte a un barème. Quand elles ont un programme de bug bounty, elles ont un barème bien précis, et c'est en fonction de l'impact de la faille remontée. Pour te donner une idée, par exemple, une boîte comme Starbucks, donc si tu trouves une faille qui s'appelle Subdomain Takeover, donc en gros, c'est la prise de contrôle d'un sous-domaine, c'est-à-dire que tu contrôles le contenu servi par un sous-domaine de Starbucks.com, par exemple. La boîte va te payer 2 000 $, donc c'est pas négligeable. Mais après, ça peut monter très haut. Il y a des boîtes qui donnent des récompenses de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour une faille importante. Donc, les gens qui sont très bons font leur vie avec ça, ne font que ça.
D'accord. Est-ce que, justement, tu parlais d'exemples de failles, est-ce que tu peux nous en donner d'autres qui sont typiques, histoire de que ce soit un petit peu plus concret ?
Donc, une faille qu'on voit de moins en moins, on va dire, c'est une faille d'injection SQL. En gros, c'est quand toi, en tant qu'utilisatrice, tu es capable de modifier la structure d'une requête SQL que le serveur va effectuer. Et du coup, ça te permet d'explorer, de lancer des requêtes contre la base de données que le système n'avait pas anticipé. Donc, tu peux, par exemple, sortir des informations, des données sensibles sur les utilisateurs, les utilisatrices du système, et pas seulement les tiennes. Et tu peux exfiltrer toutes les données comme ça. Autrement, ce qui est très connu, c'est du cross-site scripting. Et en gros, c'est un peu pareil, tu fais de l'injection et tu arrives à injecter du code à toi. Donc cette fois, c'est pas du SQL, ça va être du HTML ou du JavaScript. Mm-hmm. Et ça va te permettre de, par exemple, de lancer depuis le navigateur des utilisateurs ou des utilisatrices, de lancer une requête vers un serveur, peut-être un serveur que tu contrôles. Et du coup, ça te permet de récupérer des cookies sensibles, par exemple.
Bon, j'imagine que de toute façon, cette liste, c'est présent au niveau des tutoriels et tout. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, tous les types de failles vont être mentionnés.
Oui, OWASP notamment est connu en fait pour un top 10 des vulnérabilités présentes sur le web. Ce qui revient le plus souvent et ce qui est le plus dangereux, ben voilà, c'est telle vulnérabilité, voilà comment la trouver, voilà comment l'exploiter, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal pour commencer aussi.
Je pense à un truc, tout à l'heure tu me disais qu'il y avait quand même une grosse communauté, il y avait les White Hat et donc les hackers éthiques, et là je peux pas m'empêcher de penser au côté mauvais. Donc j'imagine qu'il y a aussi des communautés de hackers un petit peu moins éthiques qui vont au contraire être très contents de ces failles. Est-ce que ces deux communautés communiquent ? C'est-à-dire que là j'imagine... Si un hacker éthique trouve une faille, la remonte aussi de façon publique. Hein. Il me semble qu'il y a des gens qui contactent via Twitter, via plein de réseaux sociaux pour dire « j'ai trouvé cette faille ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que des hackers non éthiques s'en emparent et viennent aggraver le problème ?
Bien sûr. Et à mon sens, les deux communautés sont liées, en fait. Il y a des gens qui sont, comment dire, grey hat.
Ils sont gris, ils sont entre les deux.
Ils sont entre les deux, voilà. Ils sont ni chapeau blanc, ni chapeau noir. Ça dépend de la période, ça dépend de leur humeur. Mm-hmm. En fait, on peut trouver des failles dans un système qui ne paye pas de récompense. Et là, ça peut titiller les gens. Ça peut, les hackers qui trouvent ces failles peuvent se dire « Mais attends, est-ce que je vais trouver un moyen de me faire de l'argent, donc je vais revendre cette faille que j'ai trouvée à une boîte privée qui va peut-être l'exploiter pour leur bénéfice, en fait. » Donc il y a tout un écosystème un peu malsain de boîtes qui rachètent des vulnérabilités à des chercheurs en sécurité comme ça.
Oui, la limite n'est pas simple, en fait. Puis ça peut être tentant, j'imagine, ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui trouve des failles, hein, de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir aussi de récompense, de reconnaissance, en fait, pour son travail. Hein. Et j'imagine que pour certains, ça pourrait être tentant, effectivement, de passer de l'autre côté. Et du coup, je me demandais aussi comment est-ce que c'est réglementé ? En fait, est-ce qu'il y a une réglementation ? Parce que là, on parle de communauté, je ne sais pas, est-ce que ces personnes qui trouvent des failles pourraient être inquiétées par des plaintes, peut-être, de la police ? Ou imaginer qu'une entreprise ne soit pas contente ?
Non, mais tu as tout à fait raison. Et il y a des personnes qui avaient de bonnes intentions et qui ont fait des remontées de failles et qui ont eu des problèmes. Et notamment un hacker français, je ne me rappelle plus de son nom, mais son pseudo, c'est Bluetooth. Et il avait trouvé en fait des documents indexés sur Google, donc que toi, si tu lances la bonne recherche sur Google, tu aurais pu trouver aussi. Mmh. Donc il a trouvé des documents sensibles sur Google. Et pour vraiment... montrer le problème, en fait, il avait téléchargé tout ce qu'il avait trouvé.
D'accord.
Et je me rappelle plus de la boîte en question, c'était peut-être une association, je me rappelle plus des détails, mais en gros, la boîte avait dit, mais vous avez tout téléchargé, donc on vous attaque. Après, il y avait eu un Uruguayen, je me rappelle plus de son nom aussi, c'est Alberto Hill ou quelque chose comme ça. Lui aussi, il avait fait une remontée à une boîte, et en fait, entre la remontée et la correction de la faille, quelqu'un d'autre, a priori, s'était introduit. Et du coup, ils avaient envoyé la police, ils avaient dit, mais vous avez exploité la faille, on vous arrête. Et c'était une histoire horrible.
Ouais.
Il a perdu sa compagne, l'a quitté, etc. Ça a complètement bouleversé sa vie. Donc évidemment, c'est très dangereux. Après, quand on se limite à la France, il y a une sorte de vide juridique, c'est pas vraiment encadré. Donc il faut quand même faire gaffe, il faut faire très attention. D'où l'intérêt en fait d'avoir une politique de divulgation responsable. La plupart vont dire, si vous respectez les règles du jeu, si vous attaquez au sein du périmètre autorisé, etc., que vous gardez ça pour vous le temps qu'on corrige la faille, etc., etc., on s'engage à ne pas vous attaquer, à ne pas vous poursuivre en justice.
D'accord. Donc là, c'est le cas, par exemple, quand tu rejoins des plateformes que tu mentionnais plus tôt, c'est ça ? Il y a quand même un cadre ?
Oui. En général, la règle du jeu, c'est vous vous engagez à ne pas partager les détails de cette faille jusqu'à ce qu'on ait résolu le problème.
Mm-hmm.
Après, certaines boîtes disent on vous autorise à expliquer les détails sur votre blog, par exemple, si vous voulez partager vos astuces avec d'autres. D'autres boîtes, à l'inverse, disent non, vous gardez tout secret, interdit de partager les détails avec d'autres personnes.
D'accord, ok, donc c'est vraiment au cas par cas et ça va dépendre des missions Et du coup, tu disais que pour le moment, en France, c'était un petit peu un vide. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas tellement d'encadrement. Est-ce que tu sais s'il y a des collectifs, peut-être, de hackers qui essayent de faire bouger les choses ?
J'avoue ne pas avoir une bonne réponse à cette question, mais il faudrait que je regarde. À mon avis, une association comme la Quadrature du Net, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient actifs et actives dans ce domaine.
À vérifier, du coup. Écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour finir, est-ce que tu as peut-être un dernier message à donner à des gens qui voudraient se lancer, mais aussi à des entreprises qui n'ont pas encore mis en place de politiques de divulgation responsable ?
Des conseils pour les gens qui voudraient se lancer. Je dirais, si vous comprenez l'anglais assez bien, vous pouvez commencer par les pages OWASP et voir si vous comprenez. Commencez par quelque chose de simple, par exemple. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un open redirect ? C'est quelque chose qui n'a pas forcément un gros impact. Donc voilà, commencez petit et puis apprenez. Voilà, c'est un apprentissage de tous les jours. De toute façon, on est toujours au pied de la montagne en termes de sécurité. Par rapport aux boîtes qui voudraient se lancer, ça ne coûte pas grand-chose. Il suffit juste de mettre une page sur votre site internet et de dire on n'est pas infaillible. On sait qu'on peut avoir des problèmes de sécurité. Si vous en trouvez, voilà. En fait, c'est juste une page. T'as même pas besoin de faire appel aux juristes de la boîte ou je sais pas. Tu peux commencer très facilement et voir si t'as des retours ou pas.
Bon appel à Mathieu et Camille. Hein. J'attends d'ici un mois ou deux la fameuse page avec
security.txt.
Ouais voilà.
Et c'est vraiment peu importe le statut de la boîte, que vous soyez une association caritative ou une grosse boîte, tout le monde, du moment que vous avez une présence sur Internet, vous avez intérêt à mettre sur pied au moins une politique de divulgation responsable.
Merci encore Julien pour cet échange très riche. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de creuser le sujet. Si vous voulez retrouver tous les liens cités dans cet épisode, rendez-vous sur notre blog blog.humancoders.com.
Enfin, pour écouter tous les autres épisodes de ce podcast, c'est sur SoundCloud. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions. Enfin, sachez qu'on est en recherche de nouveaux invités pour les prochains épisodes, donc pourquoi pas vous. Si vous avez un sujet que vous avez envie de partager, bah, n'hésitez pas à me contacter.